Coucou les amis, micro-promo avant de démarrer pour vous dire deux petites choses. Premièrement, j'ai écrit un nouveau spectacle qui s'appelle « On disait qu'on faisait la fête » et je vais le jouer un peu partout, en tournée, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, même en Asie. Toutes les dates sont sur fannyruet.com. Et puis deuxième nouvelle, mon roman « Bien sûr que les poissons ont froid » sort en format poche le 2 mai et il sera dispo le même jour en livre audio. Je l'ai enregistré moi-même, j'ai trop aimé faire ça et je suis trop contente du résultat, donc yay!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
Et je pense que plein de gens devraient s'écouter plus, quoi. Parce qu'on se fait beaucoup, beaucoup de mal parfois dans des endroits dans lesquels on n'est pas forcément bien, mais c'est comme ça, tu sais, et puis tu vois, bah tu sais. Et puis tout le monde le fait, alors comme tout le monde le fait.
Dans ce nouvel épisode des gens qui doutent, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir l'humoriste Shirley Soignon. Vous l'avez peut-être comme moi découverte il y a plus de 10 ans à la télévision, dans l'émission On demande qu'à en rire. Mais aujourd'hui, bah, elle fait vraiment partie des meubles dans le stand-up francophone. Elle a écrit et joué plusieurs spectacles, elle a lancé sa boîte de prod, sorti plein de formats différents de blagues sur internet. Elle a participé à 3 millions de galas en télé. Elle a lancé le Barbès Comedy Club à Paris en 2019, qui a fermé là il y a quelques mois. Elle a joué dans plein de pays grâce à son tour du monde des comedy clubs. Elle a travaillé sur l'écriture de blagues de la série Drôle sur Netflix, à laquelle j'ai participé aussi. Elle a donné plein de masterclass. Donc c'est vraiment une des humoristes les plus importantes de notre génération. Et il y a quelques mois, elle a annoncé qu'elle arrêtait le stand-up, qu'il ne lui restait que quelques dates avec son spectacle Être humain, que je suis allée voir d'ailleurs, qui était vraiment très très bon. C'était extrêmement beau, bien écrit, touchant, pertinent. Elle y aborde des sujets qui sont très lourds. Ça parle de drogue dure, de séjour en hôpital psychiatrique, de pédocriminalité, mais avec des passages vraiment hilarants. Je me suis pris des fous rires, mais genre de ceux où tu sais pas te ravoir, et ça m'arrive assez rarement dans le stand-up, et là vraiment j'étais littéralement pliée en deux. Donc j'avais envie qu'on enregistre un épisode ensemble pour justement faire le point sur toute sa carrière et parler de plein de choses, évidemment de pourquoi elle arrête le stand-up, de ce qu'il a usé dans ce milieu, du fait qu'elle va vraiment changer de vie en fait dans les prochains mois, puisqu'en plus d'arrêter son métier, elle vient de déménager dans un petit village en Bourgogne, de ses débuts dans la télé qui étaient hyper compliqués, qui l'ont énormément marqué, de la dichotomie qu'elle a connue pendant toute sa carrière, de vouloir être aimée par les autres, mais tout en étant très rebelle dans ses choix, de pourquoi le Barbès Comedy Club a fermé et de ce qu'elle garde de toute cette aventure, du fait qu'elle a appris à s'écouter, de l'importance de donner sa confiance, et du fait qu'aujourd'hui, elle ne recherche plus tellement la blague, mais plutôt la pertinence. J'espère que ça vous plaira.
Comment ça va déjà ?
Ça va bien. Fatigué un peu.
Fatigué.
On va pas se mentir, ça se voit dans mon visage. On se regarde dans les yeux. Ça va super. Non, je suis fatigué.
T'as fait quoi ?
J'ai fait quoi ? Bah, c'est la tournée là. J'ai enchaîné 3-4 dates, tu sais. Puis moi, je produis en même temps. Enfin, quand je dis produit, c'est, on pense vraiment, je suis juste à signer des chèques. Mais en fait, je m'occupe aussi des feuilles de route, prendre les billets de train de tout le monde.
Ah ouais.
Oh, tu vois, des trucs comme ça. Donc en fait, un spectacle pour moi, c'est 10 postes
ah
à
ouais.
gérer.
Mais tu signes quand même des chèques ou pas?
Non, je fais plus de chèques, je fais des virements. J'ai une comptable, Dieu merci. Mais ouais, donc fatigué parce que 3 jours de tournée pour moi est égal 20 jours de travail non-stop. Donc crevé, puis le fait de... Je suis passé par Paris là, et ça y est, j'ai déménagé de Paris, tu sais, mais du coup, dès que je reviens à Paris, je sens que ça me tire sur l'énergie, donc ouais. Ça me fatigue vite. Là vraiment, ça fait un quart d'heure que je suis à Paris et j'ai envie de crever. La pluie, les gens, tu vois, les trottoirs trop étroits. Je suis triste, je suis mieux à la campagne.
Ah, tu m'étonnes.
Ouais.
Mais donc là, t'as totalement changé de vie.
Je commence à être tranquillou, quoi. On se trempe la nuque, tu vois, tranquillou. Déjà, j'ai déménagé à la campagne.
En Bourgogne.
En Bourgogne. Là, dans quelques jours, ça y est, j'arrête la scène. Je vais pouvoir enfin faire autre chose. J'étais obligé de le dire et pour le faire, tu vois.
Ah ouais,
ouais.
Ah, t'es comme ça, toi, t'es obligé de te
ouais.
mettre un peu. Okay.
Sinon, le coca, tu sais, quand il y a une bouteille de coca chez moi, je la bois en entier. Après, je suis là, ah, j'aurais pas dû, j'ai mal au ventre. Tu vois, je la bois en une heure, quoi.
Je comprends. Donc c'est ça, pour ça que t'as dit que t'arrêtais l'iPhone et tout.
Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je dis aussi à mon public, j'arrêtais l'iPhone comme j'arrête la scène, quoi, tu vois. Donc il peut que je reprenne, mais c'est juste que j'ai besoin de le dire pour faire une vraie pause. Donc voilà, là l'idée c'est que dans quelques jours, je vais pouvoir vraiment vivre à la campagne, être vraiment totalement dans cette life-là, où tu vois, t'es loin de tous les mouvements, genre les manifs d'aujourd'hui. Bah attends, j'ai envie d'y aller maintenant que je suis là, mais à la campagne, t'es là, oh, ça va, il n'y a pas tant de problèmes quand on est chez soi. C'est ça.
Ouais. Mais c'est pas brutal comme changement de déménager non seulement à la campagne, t'as plus tes potes et tout, et en plus de ça, t'arrêtes le métier que tu fais depuis des années.
Alors ça va pour les potes, j'en avais pas tant que ça. Donc non, c'est vrai que je suis pas très sortie, tu vois, soirée, tout ça. Donc du coup, quand je vais voir des amis, en général, c'est un vrai moment. Et du coup, être à la campagne, c'est encore mieux parce qu'ils se déplaceront vraiment un moment ensemble. Ça sera riche, ça sera cool. Sinon, la plupart des potes, en général, on s'appelle en se disant on n'a pas le temps de se voir. Tu vois, donc sinon, c'est des fausses sorties. Donc non, c'est cool. Puis moi, j'ai toujours navigué entre les deux, entre la ville et la campagne. Donc je savais que je préférais la campagne. Je me mettais vivre à Virton, en Belgique. Donc non, c'est un truc que j'aime bien. C'était il y a 3 ans, 4 ans, je crois. J'ai fait ça pendant 6 mois. J'adore ça. Ce qui est brutal, ça va certainement être de pas monter sur scène à des moments où j'aurais peut-être envie, tu vois, des petits trucs. Ça m'est arrivé là d'aller voir des plateaux et de me projeter déjà dans le moment où j'allais arrêter en disant oh non, ça va être trop dur, j'aurais trop envie d'y aller un peu. Mais je crois que c'est parce que là je suis encore dans le move. Mais en vérité, ça va me faire du bien d'arrêter vraiment.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui t'a usé ?
Mon identité m'a usé Elle m'a usé dans ce milieu et dans cette vie, en fait, de base, elle m'épuise. Tu sais, de toujours des... Bah, tu fronces les sourcils, tu comprends pas. Mais tu sais, je crois que le fait de tout ce dont je parle ne me soulage pas. Quand je parle de racisme, d'homophobie, ça ne me soulage pas du tout. Ça fait du bien à plein de gens, mais moi, je passe mon temps à parler de ça et je vis pas ma vie. Donc j'aimerais bien la vivre. J'aimerais bien vivre ma vie de non-binaire, noir, dont je parle tout le temps, là. Je sais pas ce que c'est. Parce que je passe mon temps à monter sur scène, pratiquement pour ne parler que de ça. Et tout ce que j'ai observé dans le monde, là, et puis hop, voilà. Donc j'ai très peu de temps de moments où je fais des choses juste pour moi. Tu vois. Juste balader dans la forêt, lire un livre. Tu vois, autre chose que pour parler de ça sur scène. Donc j'ai besoin de vivre une vraie vie.
Mais t'arrives à, maintenant que tu te remets dans la vraie vie, entre guillemets, à justement faire les choses sans te projeter dans « oui, mais quand je reprendrai le stand-up, ça potentiellement c'est un sujet en fait
». Bah là je sais pas, je peux pas dire encore, parce que là, j'ai pas encore vraiment arrêté. Donc là potentiellement tout est un sujet. Là vraiment, comme je sais que c'est bientôt la fin, en plus il y a plein de trucs que j'ai envie d'écrire maintenant et d'enregistrer tout de suite pour les dire et tout. J'ai tellement d'idées sur la réforme des retraites d'un coup, bizarrement. Là il y a plein, ouais. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais je pense que non. Je pense que je vais vraiment réussir à le transformer autrement. J'aime bien faire d'autres choses en art qui n'est pas forcément mon travail. Enfin, même pas du tout d'ailleurs. Comme de la musique, comme de la peinture, comme faire de la batterie. J'ai la sensation de pouvoir exorciser à travers d'autres arts.
T'as fait un spectacle avec la musique?
Ouais, avec des musiciens. Ouais. Où je chantais un peu aussi. Ouais, j'aime bien prendre différentes formes pour exprimer ce que j'ai exprimé.
Tu trouves que c'est trop cloisonné, de manière générale, l'artistique? Dès que tu sors un peu du truc que t'avais démarré au départ, on te dit « ouais, mais en fait, c'est pas là ta place ».
Là, je me sens cloisonné. Mais je me suis cloisonné toute seule, tu vois, dans le stand-up.
T'as construit les murs toute seule autour de toi.
J'ai fait vraiment tout plein de murs de stand-up. J'ai dit, c'est ça le stand-up. J'ai fait un documentaire, j'ai fait un comedy club, j'ai fait un campus. J'ai fait tout ce qui pouvait y aller autour du stand-up parce que je trouvais qu'on n'avait pas assez de... Je sais pas comment ça s'appelle, d'appui sur notre métier pour savoir comment le faire, un bon tuteur pour bien grandir. Mais pour, c'est pas parce que tu, en fait, je le vois un peu, parce que je me disais comme le communautarisme, c'est bien, mais c'est pas une fin en soi. Donc c'est bien de connaître les règles, mais c'est pas une fin en soi.
Ouais, il faut construire des règles pour pouvoir après les dépasser, quoi.
Ouais, exactement. Donc là, ça y est, j'ai construit ces règles-là et maintenant, ça y est, ça m'a saoulé.
N'écoutez rien de ce que j'ai dit au campus.
Exactement, comme pour l'iPhone, comme pour tout. N'écoutez pas ce que je dis. Faites ce que vous avez à faire.
Tu changes souvent d'avis ?
Je change pas d'avis, en fait. Il évolue tout le temps. Mais c'est pas un changement d'avis. Quand je reprends l'iPhone, c'est une contrainte avec une conscience toujours aussi élevée de c'est chaud de faire ça. Mais j'ai pas en plus repris d'iPhone, j'ai repris un autre téléphone parce que je me suis menti, j'ai pris un Samsung, histoire de dire que c'était pas l'iPhone. Mais bref, c'est surtout parce que, comme je l'explique dans ce spectacle-là, j'ai dû reprendre parce que justement, quand tu montes un comedy club, le faire sans téléphone, smartphone, c'est compliqué dans notre temps. Donc du coup, j'ai dû reprendre un téléphone pas équitable parce que ça va aussi vite que les autres et qu'on peut communiquer à la même vitesse. Parce que le Fairphone ne communique pas à la même vitesse que les autres, tu vois. Donc c'est des trucs cons, mais j'ai dû, voilà, j'étais contrainte de revenir à ça sans changer d'avis sur ce que je pense de la fabrication et de la façon dont on a d'utiliser la technologie à outrance en achetant l'iPhone 1, 2, 3, 4, 5. Mmh. C'est une dinguerie, et tout en parlant de transition écologique à côté et d'inclusion, t'es là, waouh, c'est tellement incohérent. Donc j'essaie de pas être incohérente et de savoir ce que je fais. Donc maintenant, je sais que je suis une esclavagiste maintenant. Je suis juste un peu fragile dans mes propos en tant qu'esclavagiste. Des fois, je doute de c'est mon esclavagisme. Et puis j'y reviens. On peut avoir l'impression que je change d'avis, mais en vérité, c'est une continuité. Et je pense que quelqu'un qui est arrêté sur ses idées, c'est quelqu'un qui, tu vois, est figé. C'est pas bon, ça. On est en mouvance permanente. Je pense qu'il faut avancer comme l'âge, quoi, jusqu'à la mort, quoi.
T'as jamais dit des choses que t'as regrettées dans tes spectacles?
Regretter, est-ce que c'est regretter? Non, mais où je me suis dit, ah là là, quand même, c'était chaud ça. Oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Je cherche en même temps. Mais en général, ton cerveau, il va oublier, tu vois. Donc...
Non, c'était pas moi.
Donc c'est ça, là, j'ai oublié toutes les vannes que j'ai regretté de faire. Mais oui, oui, ça m'est déjà arrivé de dire un peu des trucs un peu à côté de la plaque, notamment sur la communauté LGBT, où des fois, je suis un peu beauf de ouf. Et vraiment, je dis des trucs qu'on fait, mais pas du tout. Genre, je suis bon. Tu vois, sur le féminisme aussi, enfin. Même sur mon racisme, hein, je me suis rendu compte que j'ai pu être raciste des fois, et ça, il m'a fallu du temps pour le comprendre. C'est vraiment en écoutant des trucs, j'étais là, ouais, mais je suis raciste en fait. Tu vois. Il y a une violence envers soi-même qui est présente des fois, qu'on n'entend pas. J'ai été transphobe aussi. Mon premier sketch, je dis, on va mettre un truc au clair, après on n'en parle plus, je suis une fille. Et là, les gens étaient morts de rire. Je l'ai fait pendant 3 ans et ça a éclaté de rire. Et en fait, j'étais là, maintenant que je me sens vraiment dans cette non-binarité, c'est vraiment ridicule comme j'ai essayé de me faire accepter par les autres. Avec un rire de, alors que j'en avais jamais rien à foutre d'être un gars ou une meuf pour les gens, en fait. Mais je savais que ça allait faire rire les gens.
Mais ouais, c'est un peu les, si t'es son, ton premier sketch, c'est logique, quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu toutes les béquilles du début de...
Ouais, mais c'est la façon, de l'angle que j'ai pris pour le traiter qui était particulier. C'est-à-dire que j'ai dit, ah, c'est rigolo, hein. C'est comme si j'avais commencé en disant, on met un truc au clair, après on n'en parle plus, je suis noire. T'es là, oui, et donc. Enfin, tu vois. Il y a un truc un peu de dire, je suis d'accord avec vous alors que pas du tout. Ou à l'époque, je l'étais. Enfin, en tout cas, là où j'étais d'accord pour qu'on m'aime. C'est surtout ça.
T'as souvent été guidée par le besoin de validation du public
Trop souvent. En fait, c'était une dichotomie permanente pendant ces 16 ans. C'est aussi pour ça que j'arrête. C'est pour essayer d'être un peu plus alignée. Parce que j'étais tout le temps dans ce truc d'à la fois vouloir être aimée par les autres et en même temps être hyper rebelle dans mes choix. C'est comme ça que j'ai fait mon sketch sur mon coming out à l'époque où mon producteur veut pas que je le fasse parce qu'il a trop peur que, tu vois, ça me porte préjudice. Je suis là, bah, en fait, si je perds mon public homophobe, c'est pas très grave, quoi. Et en même temps, j'étais dans une douleur terrible de le faire parce que je voulais être aimé par ces gens-là, tu vois. Notamment par ces homophobes. C'est aussi, d'ailleurs, ça, mon travail, je trouve, dans mon écriture, c'est ça, c'est de, pas d'être aimé par ces gens-là, mais qu'on se retrouve à un endroit, par rapport à ce que je représente. Donc pas forcément moi en tant que personne, mais tous les gens qui peuvent me ressembler de près ou de loin. Avoir l'espoir un petit peu, un minimum, avec une blague, de toucher l'autre en se disant peut-être que maintenant ça a ouvert une case dans ton cerveau qui permette la prochaine fois que tu vois quelqu'un qui me ressemble, d'avoir une nouvelle réflexion un peu plus douce, un peu plus belle, avec saupoudrée d'amour. Donc c'est un effort incommensurable.
Ouais, c'est épuisant. Ouais. Parce que tu dois tout le temps éduquer les gens, en fait.
Ouais, en commençant par moi. Tu vois, avec tous les trucs dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est épuisant. Donc, c'est pour ça que je dis, j'ai envie de vivre cette vie dont je parle. Je sais pas si elle existe vraiment, faut que je la vive, quoi, tu vois. Donc, c'est ça. Ça m'a beaucoup fatigué, mais c'est comme ça que j'ai aussi trouvé l'essence de ce que je voulais trouver sur scène, dans ce que je voulais raconter. C'est en m'épuisant.
Tu penses que c'est nécessaire dans l'artistique d'être épuisé à un moment?
Dans la vie, je crois, ouais. Dans la vie, ouais, c'est pour ça. Ça permet de... Comment on appelle ça, tu sais, de tailler la pierre pour en avoir l'essence, quoi. Il faut s'épuiser, ouais. L'érosion, quoi. L'érosion du temps sur soi. Alors.
Mais c'est terrible.
Ouais, c'est terrible, ouais. Mais c'est la vie. Elle est pour avoir le sentiment de moments de zénitude, de paix. Je pense que ça passe par aussi des moments difficiles. Donc l'épuisement, ouais. C'est le livre que j'ai lu en début d'année de Christian Bobin, mon ex qui m'a quitté avec ce livre, L'épuisement. Très beau livre que je conseille. Tu vois, pour se rappeler un petit peu aussi à son essence. Parce qu'on me demande, est-ce que je vais continuer là, est-ce que je vais continuer d'écrire ou pas, etc. Je fais, alors évidemment, en fait, c'est juste que je vais arrêter de regarder cette feuille blanche. Je vais juste, le jour où j'ai une idée, l'écrire sur cette feuille blanche. Mais je vais pas rester devant cette feuille blanche à attendre ou à me sentir obligé de quelque chose. Mais aussi, voilà, je prends cette décision aussi, c'est ce que je disais à Tani il y a pas longtemps. Je sais pas si tu l'as déjà reçue ou pas.
Tani, non, mais Tani qui est très très marrante. Ouais. Elle joue à la nouvelle scène.
Exact, son spectacle. Et je lui disais, tu vois, le fait que tu existes, le fait que Lou Trottignon existe, le fait qu'il y ait pas mal de personnes qui existent, ça me permet, moi, de partir sereinement. Tu vois.
C'est genre, ton job est fait,
ouais.
La relève est là.
Exact. Mm. Ça me va, bon, tu fais pas ça pour la notoriété? Je fais, mais pas du tout, sinon j'aurais vraiment fait d'autres vannes. genre, j'aurais clairement fait
continué la télé.
Mais ouais, tu vois, j'aurais fait autre chose. Donc là, ça me fait trop du bien de savoir que... Et puis avec des personnes encore plus conscientes que moi sur plein de sujets, tu vois, c'est trop bien.
Et qu'est-ce que tu cherchais, en fait? Parce que c'est vrai qu'en fait, maintenant que tu le dis, je vois à quel point il y a des choix qui étaient curieux. Mmh. Si ce que tu cherchais, c'était d'être aimé par des gens... Enfin, genre, t'as commencé par la télé, déjà, ce qui est vraiment le pire endroit où commencer.
Ouais, de ouf.
Et t'as vite réalisé que ça te plaisait pas, que t'étais pas à ta place
Alors, pour l'histoire, j'ai toujours su que c'était pas mon endroit. Quand j'ai commencé la télé, moi, la première fois, j'avais 8 ans. J'ai fait un...
Alors, Navarro.
Navarro. J'ai quand même joué dans Navarro. J'avais en fait demandé à mon oncle, qui était comédien à l'âge de 7 ans, je lui ai demandé, est-ce que je peux faire des castings, comment ça se passe et tout. Et j'ai incité plusieurs semaines, voir moi, avant qu'il demande à mes parents, qui ont dit oui, pour que je fasse des castings. Et donc, j'ai fait la Coupe d'Europe 96, c'était une pub pour le foot. Ça, c'est mon premier casting que j'ai eu direct. Après, j'ai fait Navarro et Le Bonheur est un mensonge, un téléfilm avec Michel Aumont. Mais ça, la même année. Tu vois, donc j'ai enchaîné les tournages de ouf et tout. Et donc,
Grosse enfance.
Grosse enfance de ouf. Et j'ai découvert la notoriété. J'ai découvert des petits à l'école primaire qui me couraient après pour un autographe parce qu'ils m'avaient vu dans Navarro, tu vois.
Ah, waouh.
Et ça m'a vraiment fait flipper, quoi. Ouais, de ouf. Et du coup, j'avais conscience de ce que c'était la télé, puis j'étais pas impressionné par les caméras, par le fait d'être diffusé, la technique, je la comprenais, t'enregistres, tu diffuses. Voilà, j'ai jamais été dans ce truc du star system, donc quand j'ai fait commencer l'humour à 19 ans et qu'on m'a proposé de la télé à 20 ans, je crois, 21 ans, j'étais en production, j'étais signé par une prod que j'ai choisie, et Laurent Ruquier, que j'avais rencontré par ailleurs, m'a proposé de faire En demande qu'à en rire. Et moi, tout de suite, j'ai dit non merci. Et je me rappelle, j'étais sur le trottoir de l'Olympia, je sortais des premières parties de Franck Dubosc. J'avais fait
ouais,
une
ça
semaine...
aussi, il faut qu'on en parle.
C'est un délire. J'avais fait une semaine de première partie de Franck Dubosc parce qu'il m'avait vu sur internet, je sais pas où, sur Dailymotion. Et il avait bien aimé. Ouais. Il était là, viens à l'Olympia, faire une semaine de première partie, 20 minutes tous les soirs.
20 minutes de première partie à l'Olympia avant Franck Dubosc.
Ouais. C'est un délire, hein. J'avais 20 ans, 21 ans, ouais.
Oh, waouh.
Et c'est trop, trop beau, quoi. Et je joue mon dernier jour, c'est le 3 octobre, donc mon anniversaire, un dimanche. Franck m'a offert des fleurs, champagne et tout, trop mignon, machin. Et je suis comme ça, trop bien, dans cette dernière soirée. Et là, Ruquier gâche mon anniversaire. Ce qu'il appelle. Et il me propose, on demande qu'il en rire. Et je dis non, merci. Sur le trottoir, en plus, hyper enjoué. Je viens de finir une semaine d'Olympia. Je suis là, non, c'est bon, je crois que c'est bon, ma route est tracée. Je vais y aller mollo, m'entraîner à l'Olympia. Tu vois, normal. Et mes producteurs sont avec moi ce jour-là. Et mon oncle, avec qui j'avais proposé de venir en tant que manager, qui était l'oncle qui m'avait fait faire des castings à 8 ans. Donc mes producteurs, ils étaient deux, et ce manager sont trois à me dire vraiment, tu viens de dire non à Ruquier sur le trottoir de l'Olympia, là c'est pas possible. Nous on a pris le théâtre de 10h trois fois par semaine, jeudi au samedi, tu peux pas dire non à une télé aussi importante, hein, tous les jours à 18h. Donc je dis, bah si je peux dire non, regardez, je l'ai fait. Là, aucun doute, vraiment, j'en ai pas. Sauf que là, ça y est, mon oncle, rapport familial, je te connais depuis que t'es gamine, tu fais n'importe quoi, t'es en train de rater le train. Et on me met une pression folle sur ce trottoir. Et en fait, moi, je fonctionne un peu petit bonhomme que je suis à ce moment-là au défi. Tu vois, tu me défies, je suis là, moi, je suis pas capable, ok, je le fais, moi. Et en fait, je le fais comme ça, tu vois, sous la contrainte de mes trois gars qui m'entouraient, qui devaient... Il y a une polémique sur ce trottoir, ça dure une demi-heure, je pense, où vraiment... Je suis là, non, j'ai pas envie. Et ils me font rappeler Ruquier, je rappelle et je dis d'accord. Voilà, pour résumer, c'est un peu ça. C'était un peu plus long que ça, mais ça a été ça. En gros, j'ai accepté sous la contrainte. Donc en fait, si tu regardes bien le parcours sur On demande qu'à en rire, je crois que j'en fais 6 Et après, je me casse.
Selon Wikipédia, tu en fais 6.
Tu vois, en fait, j'en fais 30 au total, mais j'en fais 6 en premier. Ouais, 30 au total. Je suis la première avec Olivier Debenois à faire la première émission. Donc, je commence par du stand-up. Si tu regardes bien, mes 6 premiers, c'est du stand-up. On écrivait avec Navo, c'était des stand-up carrés de ouf, mais c'était compliqué à jouer parce qu'on avait peu le temps de s'entraîner dans les clubs, enfin, dans les bars. Et du coup, au final, je m'entraînais même plus, ça commençait trop risqué.
Parce que là, on était en 2010, 11.
2010-11.
Ouais, donc les comédies clubs, ça courait pas les rues, quoi.
Non, pas du tout, même. Donc, du coup, c'est que des bars, tu vois, que des trucs de Topito, une fois le mercredi, etc., Comedy School. Voilà, on n'a pas beaucoup d'occasions de le faire. Et plus ça va, plus le rythme est freiné, et moi, j'ai le temps de m'entraîner dans les stand-up, et en plus, je commence le stand-up. Je commence à avoir conscience que je fais du stand-up, parce que mon premier spectacle s'appelait SketchUp. Donc, c'est pour dire, je ne savais pas ce que je faisais. on me demandait, j'étais à SketchUp, j'en sais rien. Maintenant, c'est devenu une vraie forme maintenant. Il y a des jeunes maintenant qui me disent ça. Là, je parle comme une yeuf, mais il y a des jeunes, ils me disent, je fais du SketchUp, je fais comment ça? Et en fait, les gens qui font du stand-up et ils sont pas au courant. Ce qu'ils font juste parce que des fois, ils jouent un peu des persos. Mmh. Bon, bref. Et puis, il y en a d'autres qui disent, SketchUp, c'est vraiment un truc, tu fais du stand-up, après noir, après il y a un sketch. Ok. Pourquoi pas? C'est un SketchUp. Donc voilà. Bref, à l'époque, je sais pas ce que je fais. Donc, je découvre le stand-up à peine. Et je me retrouve en demande qu'à en rire à essayer d'en faire comme George Carlin, jugé par Jean Benigni. C'est genre incroyable, quoi. Donc j'arrête au bout de 6. Et là, il se passe un truc. Je voulais en parler sur scène, j'ai jamais eu l'occasion. Donc là, je t'en parle comme ça. C'est un peu violent, mais ce qui se passe, c'est que Drucker m'appelle pour faire une émission Europe 1 à l'époque. Il a un truc, c'est pour les nouveaux talents. C'est une émission d'une heure où il présente un nouveau talent. Et il doit demander des témoignages à des gens connus. Et il demande le témoignage de Laurent Ruquier. Et Laurent Ruquier dit non, je ne connais pas cette personne. Parce que j'ai arrêté l'émission.
Oh, waouh!
Tant qu'elle revient pas, je la connais pas. Et j'étais là, bon, bah tant pis, on demande d'autres témoignages. Et là, mes prods, ils font, je crois que t'as pas compris en fait ce qui est en train de se passer. Là, ça s'appelle du boycott, donc faut que t'y retournes. Alors, clairement, c'est une traduction de mes producteurs. Hein. Moi, je pense que c'était juste un petit coup de pression. Il aurait, enfin, je veux dire, boycotter quelqu'un qui est pas connu, ça marche pas de ouf, tu vois. C'est sur ces belles paroles que je suis retourné faire On ne demande qu'à en rire. Et je réarrête un moment. Et là, j'explique pas parce que c'est vraiment violent et je préfère vraiment raconter sur scène un jour de façon très marrante. Mais bref, j'ai dû faire mes excuses et tout ça pour revenir dans l'émission, tout ça, machin. Donc ça a été vraiment pour moi un traumatisme. Un vrai traumatisme que j'ai eu du mal à digérer. Ça a mis des années, tu vois. J'ai pas parlé à mon oncle qui était mon manager pendant des années, qui est aussi de ma famille et que j'aime très fort aujourd'hui, qu'on se revoit. Mais parce que je me suis senti trahi, quoi. Mmh. Et que... Toi qui as vu mon spectacle Être humain, tu peux savoir que chez moi, la trahison, ça peut être compliqué à gérer, tu vois. Donc voilà, il y a tout ce cumul qui fait que je monte ma production. En me disant, en fait, plus jamais, on me dira ce que j'ai à faire.
Qui s'appelle On Time Production.
À mon heure, quoi. Je suis pas pressé, on n'a pas à me pousser, quoi. Voilà, c'est un peu ça qui se passe, pour résumer. C'est un peu, genre, des contrariétés, beaucoup de contrariétés. Non, j'en avais déjà dans la société, que je relevais beaucoup, et que j'en faisais des stand-up, mais alors celle-ci... C'est pour ça que j'appelle beaucoup ce milieu la famille. Tu vois, on me demande pourquoi t'appelles la famille et tout. Il y a un rappeur. Je fais, parce que c'est une famille, on l'a pas choisi, mais on doit vivre ensemble quand même, quoi. Et des fois, c'est violent.
Ah, c'est dans ce sens-là. Moi, je pensais que c'était dans le sens la famille, les gens avec qui j'ai choisi de bosser.
Non.
C'est parce que c'est les seuls qui m'ont pas cassé les couilles.
Non.
Parce
justement.
Que j'ai dû enlever tous les autres, tu vois.
Non, en fait, dans okay. La famille, il y a des gens que t'adores et d'autres pas, en fait.
Ok.
Tu choisis pas les gens avec qui tu traînes, tu vois. Mais on grandit ensemble quand même et on doit s'accepter quand même.
Mmh.
Ouais, c'est autre chose, tu vois.
Ouais. Que...
Mais non, parce qu'une famille, genre, sinon j'en ai une autre que je dois aussi gérer, mais c'est une famille, quoi. J'oublie pas que c'est une famille. C'est comme ça qu'on peut avancer ensemble aussi. Et pas... Mais c'est aussi un truc un peu piégeux, où je me suis piégé, quoi. Parce qu'à dire la famille, il y a aussi des secrets de famille, tu vois. Et des trucs qu'on ne dit pas, du coup. Et des trucs comme ce qu'a fait Laurent Ruquier ou d'autres, que je trouve abjects. Maintenant, ça y est, je vois que les humoristes, dès qu'il se passe des choses comme ça, ils en parlent.
Ah ouais, parce que moi, j'ai jamais connu. Le milieu aussi malsain que ça,
ah ouais.
Quoi.
Non, j'ai l'impression
que t'as essuyé
vraiment...
tous les plâtres
ah là là.
Pour que nous, on arrive comme des rois. En disant, non, mais tout le monde est gentil.
Ouais, c'est une dingue. Après, tu vois, Ferrari, il était avec moi, on l'a vécu. Moi, je l'ai vu gueuler directement. Il était plus conscient tout de suite. Et je l'ai vu, moi, prendre des positions devant les prods. Tous, Verino, on était hyper impressionnés et tout. Il avait tendance à gueuler direct et tout, donc il a vécu différemment et puis il est peut-être moins naïf que moi. Moi, je crois que j'attendais vraiment quelque part une reconnaissance quelque part à un moment donné. Tu vois, je sortais d'une forme de vie où l'identification, la confiance, je l'avais pas encore trouvé, je l'ai encore mis du temps à le trouver, c'est que maintenant là, ici, maintenant que je commence à comprendre de quoi je dois m'entourer.
Ah ouais?
Ouais.
Comment, c'est quoi les déclics? Parce que tu parles dans le spectacle notamment qu'il y a beaucoup de gens et de concepts auxquels t'as dû dire non et que t'as dû refuser alors que ce sont vraiment des monstres du milieu. Et il y a cette image qui m'a beaucoup parlé, il y a un truc qui toque. Il y a un truc qui, tu sais qu'il y a un truc qui va pas.
Ouais. Ouais.
Mais ça veut dire qu'il faut le cran d'oser quitter les choses. Alors que c'est souvent les chemins un peu tout tracés qu'on sait qu'on doit suivre et il faut aller dans les gros festivals, il faut connaître ces gens-là, quoi.
Ouais, alors c'est tout à fait personnellement, c'était vraiment une question de vie ou de mort. J'entends par là que ma santé mentale commençait vraiment à en prendre un coup. Donc il était vraiment question de vie ou de mort, et je pèse mes mots. Il était temps que je pense à moi, que de marcher sur mon entorse, tu vois. J'appelle ça l'entorse artistique que je m'étais faite depuis un moment. Il était temps que je me respecte. Et il est temps que je me respecte. Parce que il y a ce qu'on voit de moi sur scène, en télé, et puis il y a ce que je vis dans ma vie privée, quoi. Tu vois, donc là, je parle tout à fait personnellement. Mmh. Question de vie ou de mort. Quand tu acceptes trop l'inacceptable en permanence, il y a deux solutions. Soit tu perds ta compassion, ton empathie, et tu deviens un être vivant qui marche sur le capitalisme et c'est tout. Et puis, ok, parce que ce serait trop dur de voir la vérité en face, donc je peux comprendre qu'on fasse ce choix-là. Ou alors t'es d'une hypersensibilité terrible, toujours à essayer, et tu te fais du mal au lieu de te faire du bien, quoi. Donc moi, c'est mon cas. Moi, le cas, c'est que des choses à la con, il y en a plein, hein, mais de base, ne plus me nourrir, ne plus dormir, ça te fait divaguer déjà, tu vois. Parce qu'en fait, tu te laisses mourir quelque part. Tu te laisses mourir. Donc en fait, il n'est plus question de me faire du mal à ce point-là. Et je pense que plein de gens devraient s'écouter plus, quoi. Parce qu'on se fait beaucoup, beaucoup de mal parfois dans des endroits dans lesquels on n'est pas forcément bien. Mais c'est comme ça, tu sais. Et puis tout le monde le fait, alors comme tout le monde le fait. Il y a plein de phénomènes comme ça dans le stand-up qui font que j'arrête le stand-up. Parce que je ne veux pas faire, pour le coup, je ne veux plus faire partie de cette famille. Parce que si certaines personnes acceptent ça, je peux pas accepter ça, moi. Enfin, on peut pas faire partie de la même famille, pour le coup. Voilà. C'est aussi des choix comme ça. C'est aussi des choix forts, mais c'est des choix artistiques. C'est un vrai choix artistique. C'est une démarche artistique pour moi de dire aussi j'arrête. Tu vois. Si vous continuez ça, moi j'arrête alors. Tu vois.
Et comment t'imagines ta vie dans 2 mois?
Ouais, je suis certainement en train de faire du stand-up.
On le sait, Shirley. On a tous fait des paris dans combien de jours tu reviens.
Je sais, tout le monde a fait des paris. Mais en fait, les gens vont être très surpris. Notamment des gens que je pensais être des amis qui ont fait des paris sur ma venue et qui, du coup, ne m'appellent pas.
Ah, c'est un vrai truc?
Ouais.
Ah, oh, vraiment, wow, ouais, vraiment. Je disais ça pour rire.
Non, mais pour le coup, non, il y a des vrais paris. Il y a des vrais gens qui disent oui, elle va revenir dans 2-3 mois. Des gens qui je pensais étaient des amis. Et qui, du coup, comme ils pensent à ma place, parce que c'est ça aussi une famille, des fois, pense à ta place. Du coup, au lieu de prendre des nouvelles ici et maintenant pour savoir comment jouer, ils sont là, oh, elle reviendra dans 2 mois. Alors, je ne reviendrai pas, les copains. Je ne reviendrai pas. Pas en tout cas, dans ce milieu, comme tel que ça a été, etc. Donc, ça aurait été sympa de me dire au revoir. Mais en tout cas, c'est pas grave. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est ça aussi une famille, tu vois. C'est, oh, elle fait sa petite crise. C'est un peu, j'ai l'impression d'avoir fait un coming out en famille. Oui, on va revenir à la norme bientôt. Non, je continue mon chemin. Mais je me vois, en fait, dans 2 mois, tu disais, moi, dans 2 mois, je me vois vraiment chez moi en train de faire des travaux.
Parce que t'as acheté une maison à retaper.
Ouais.
En fait, je pense que c'est vraiment le fantasme de tout humoriste qui est en fin de tournée. Quand vraiment, il est sur la réserve depuis plusieurs mois. Et ouais.
Ouais, ça fait un an que j'ai acheté. Puis, je peux même pas vraiment m'y mettre parce qu'il y a la tournée, la prod et tout ça. Donc là, je suis trop content de pouvoir faire ça. En plus, c'est une grosse bâtisse, effectivement, et j'aime bien bricoler. J'ai pas du tout envie de mettre, genre, un gros billet, tu vois, pour que les gens le fassent à ma place. Parce qu'il y a là-dedans, symboliquement, un truc hyper cool, tu vois, d'aller se reconstruire en même temps que cette vieille bâtisse de 1800. On va se rénover ensemble. Donc, ça va être un certain temps, et je vais le prendre, et ça va être cool, quoi.
Et t'as pas peur du vide?
Non, alors j'adore ça.
Hein. Ah ouais?
Ah, j'adore ça. Puis il y a rarement du vide. Hein. Je sens de l'ennui, il peut y en avoir.
Ouais, mais du silence. Parce que dans ta maison.
Ah non, j'adore ça.
Ah ouais?
Ah non, j'adore ça.
Tu parles pas, personne parle.
J'adore.
Ah ouais?
En fait, je crois qu'on. Ouais. C'est très bizarre ce que je monte de moi sur scène, un peu moins maintenant, je suis beaucoup plus calme, mais c'est complètement à l'inverse de ce que je suis, quoi. Je suis hyper calme, en fait. Je parle pas beaucoup. J'aime pas trop ça. c'est presque une maladie chez moi de parler, mais tu vois, j'aime pas vraiment trop. Souvent, on parle pour pas dire grand chose, donc j'aime bien m'exprimer, mais il y a plein de façons de s'exprimer, avec le corps, avec la danse, avec le chant, avec la peinture, encore une fois, la batterie. Mais... j'aime m'exprimer, c'est clair. Mais parler, c'est pas forcément le truc le plus. Donc j'aime bien quand. Moi, je parle avec un merle chez moi, parce qu'il y a un merle qui vient depuis 20 ans dans cette maison. Les propriétaires, les anciens m'ont dit...
Attends, un merle, ça vit 20 ans?
Ah, parce que j'ai appris, ouais. Bah, mais ça fait 20 ans qu'il vient à la maison.
Mais comment leur dire que c'est pas le même merle?
Écoute, en tout cas, ce merle-là, depuis qu'il est là, ça fait un... Ouais, il est là, hein. J'aurais demandé, j'étais là, bon, 20 ans? Il m'a dit, écoutez, ça fait quand même des années qu'il vient dans cette baraque. Mais il faut quand même qu'on regarde, hein, parce que je l'ai pas vérifié, c'est un faux, je leur ai fait confiance, je me suis dit, ils sont de la campagne, ils connaissent.
Oui, oui.
Mais ce merle-là, il y a une vraie connexion avec lui, on fait des eye contact qui durent une minute. En fait, ça dure de plus en plus longtemps, parce qu'on a tous les deux peur un peu. Moi, j'ai peur qu'il fonce dans la maison d'un coup, lui, il a peur que je fonce sur lui. Et là, on a des vrais contacts, ce matin, je l'ai vu avant de partir et tout. Et en fait, il s'arrête vraiment, et puis il essaie de se rapprocher au fur et à mesure. Enfin bref, ça, c'est des vrais moments de vie, tu vois, d'échange que je kiffe. Je peux être dans l'expé, enfin vraiment un coucher de soleil, moi c'est bon, ça me va, quoi. Tu vois, le lever du soleil, regarder ça, j'ai une espèce d'horizon beau, de je trouve pas mes mots, mais de beau paysage pas loin de chez moi, là où je peux voir l'horizon, ça me suffit de ouf. Ça me prend une heure déjà, après je le peins, ça prend une autre heure, dans 2-3 heures est-ce qu'on fume quand même un peu pour ralentir encore le temps. Non mais voilà, et les travaux, les journées passent super vite. Je suis hyper manuel, j'ai l'impression de, on dirait l'amour est dans le pré. J'ai l'impression de faire mon profil, je suis très manuel, enfin, je suis quand même plutôt débrouillard.
Je déteste la trahison.
Pas la trahison, j'aime bien les filles rigolotes. Voilà, quoi. Donc, non, le temps, je sais l'occuper.
Qu'est-ce qui va te manquer le plus du stand-up?
Je pense rien, parce que je vais en consommer encore, je vais regarder, je vais écouter des trucs cool. Il y a tellement de trucs qui sortent tout le temps. Il y a plein de choses à écouter. En termes d'absorption, en tout cas, rien. En termes d'action, il y a des grandes chances que on m'a demandé beaucoup de masterclass et de trucs. Donc je pense que je vais le faire pendant 1 an, 2 ans, tu vois, maximum. Mmh. Après, ça va être ridicule de donner des cours quand t'as arrêté. Enfin, je trouve ça un peu ringos. Mais là, si je peux encore partager mon expérience, je vais le faire. Donc je serai pas totalement éloigné. Comme je te disais juste avant qu'on enregistre, mais monter la saison 3 de Définition, donc c'est les épisodes de stand-up que j'ai fait. Là, je vais les monter. Pour moi, ça fait partie encore du stand-up que de retravailler les blagues au montage. Je vais le faire avec le spectacle Être humain qui doit sortir aussi en montage. Je veux faire un deuxième documentaire et le dernier, évidemment, sur, tu vois, la suite du premier. Et ma suite est fin pour moi, qui racontera tout, comment j'ai ouvert et fermé un club, pourquoi j'ai arrêté ma carrière, comment on est passé du premier documentaire où il y avait que des bars à tous ces comedy clubs et la série drôle et tous ces trucs-là. J'ai filmé en fait tout ma carrière depuis 2007. J'ai tout. Et donc du coup là, je suis là, faut que je monte ça, je sais pas comment, ça va être un gros film, je pense, qui va mélanger beaucoup de choses, mais qui me résumera totalement bien. Donc ça va pas me manquer le stand-up, parce que je vais baigner dedans encore beaucoup. Là.
Oh ouais, en fait, tu veux, ouais.
En fait, je me dématérialise, c'est ça le truc. Vous allez encore me voir en vidéo et m'entendre pour un petit moment. Mais physiquement, je me repose.
Et le club, justement, le Barbès, t'en gardes quoi? Est-ce que t'as beaucoup de rancœur vis-à-vis
non,
de...
aucune. Ou... Non. J'en ai eu par un moment, parce que on est être humain et que, voilà, des fois, c'est pas facile. On n'est pas Bouddha, quoi. Mais en fait... tout de suite avec mon cousin.
Tu l'as ouvert donc en...
Je l'ai ouvert en octobre 2019. J'ai eu le projet en 2018, même fin 2017. J'ai mis beaucoup de temps à trouver le lieu. Puis à discuter avec le propriétaire des murs qui voulait s'engager avec moi dans le concept, alors qu'à la base, moi, je voulais juste louer un lieu. Mmh. Donc on a ouvert une conversation avec un gars inconnu pour moi à qui il fallait que j'explique ce que je voulais faire comme délire. Et puis après, on a développé la marque et puis l'image avec mon cousin Thomas. Et puis quand j'ai dû arrêter, j'ai décidé d'arrêter pour des raisons de valeur, pour résumer, des raisons de valeur humaine, c'est-à-dire que l'argent est moins important pour moi que les valeurs humaines que je voulais mettre dans ce club. Et donc voilà, là je le résume comme ça parce que j'ai envie de le raconter sur scène, que je l'enregistre. Voilà, j'ai envie de le.
Ouais, donc juste, t'étais pas d'accord avec les.
Ouais, là si je le raconte, je vais forcément. Ouais, voilà, j'étais pas d'accord avec sa façon de voir. Donc j'ai décidé d'arrêter. Mais en tout cas, quand j'ai décidé d'arrêter avec mon cousin, on s'est dit qu'on était hyper fiers de nous parce que. Et mon cousin avec qui que je fais chier depuis ses 7 ans pour faire des sketchs, des raps avec moi, enfin tous les trucs qu'on le fait en duo. Et là, lui, il est designer aussi. Donc c'est lui qui a fait le design du club et tout. On était hyper fiers de ce qu'on avait fait parce qu'on sait à quel point le travail acharné et tout, il a amené ça. Et donc on se dit, ah, c'est cool, on sait qu'on est capable de le faire. Et puis c'était beau. Et puis moi, je le vois comme une démarche artistique, presque comme un spectacle qui a duré 3 ans. Tu vois, et c'était trop beau. De toute façon, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc je suis contente d'en voir la fin moi-même, tu vois. Après, là où je suis plus triste, c'est pour sur, et c'est aucune rancœur, mais de la tristesse pour toute la communauté LGBT qu'il y a plus qui pouvait s'y retrouver, pour les personnes non valides qui pouvaient s'y retrouver. Il y avait tellement de personnes différentes qui pouvaient s'y retrouver que là on voit que depuis que ma marque a fermé, c'est beaucoup plus difficile de s'y retrouver en termes de line-up. Là ce soir je vais à la nouvelle scène. C'est cool, c'est un peu ceux qui reprennent un peu le flambeau avec le Charlie. Ouais, c'est deux endroits comme ça qui permettent d'avoir une safe place pour des personnes qui n'en ont pas ailleurs. Ça me rend vraiment triste et ça me frustre et ça me donne presque envie de rouvrir un club. Tu vois, juste à cause de ça. Mmh. Alors non, je le ferai pas tout de suite, mais en tout cas, ça donne, voilà. La frustration pourrait me donner envie de faire des choses, mais il faut que j'apprenne à arrêter de faire les choses dans l'anxiété et la frustration.
Tu disais tantôt que parler de sujets qui te touchaient ne te faisait pas du bien, en fait. Mmh. Et c'est vrai que dans ton dernier spectacle, L'être humain, tu parles de beaucoup de sujets difficiles. Mmh. Tu parles notamment d'hôpital psychiatrique, tu parles de drogue dure, de tout, plein de
tout ça va ensemble. C'est un cocktail, mais, en général.
C'est pas moi qui l'ai dit. pourquoi tu le fais si ça te fait pas du bien?
Alors, ce qui me fait du bien, en fait, c'est que ça fasse du bien aux autres. Et du coup, ça me fait du bien. Mais il y a, tu vois, il y a une espèce d'étape entre intermédiaire. Tant que j'ai pas fini le spectacle, en fait, tant que je suis pas sorti de la scène et tout, je sais pas ce qui s'est passé, quoi, à chaque fois, avec ce spectacle surtout. Donc, c'est cool parce que j'ai des retours écrits, des vrais retours écrits. Pour une fois, c'est cool, c'est parce que ça parle vraiment de ce que je raconte et pas de qui je suis, ce que je représente. Tu vois, ça, c'est cool. On a des vraies conversations avec le public et. Ça me fait vraiment, vraiment du bien. Et c'est pour ça que j'arrête aussi, parce que c'est bon, ça y est, je suis arrivé au truc que je voulais atteindre, mais le but, c'est pas de me faire du mal non plus. Et il y a quand même une petite douleur, effectivement, à le faire des fois, parce que par les pédocriminalités, quand t'as pas bien digéré les choses toi-même, parce que ça met des années, c'est pas évident, mais putain, il faut le faire, parce que si j'attends de digérer, je vais peut-être crever, là, tu vois. Donc, tu vois, il y a une urgence aussi. En fait, ce qui me ferait pas du bien, c'est de le faire en permanence. Tu vois, c'est pour ça que, par exemple, là, Être humain, j'avais commencé à le jouer il y a un an, puis après, j'ai arrêté pendant 6 mois pour faire d'autres blagues autour du monde, là. Et après, je suis revenu avec Être humain, parce que je savais que sinon, j'allais péter un plomb. Parce que j'étais en train moi-même de réparer des choses. Ça va faire beaucoup pour mon cerveau, quoi. Dire tentative de suicide en permanence, dire pédocriminalité tout le temps. Il y a des moments où je rentre et je voyais du noir, quoi, vraiment noir, quoi. Même si les gens étaient bien, moi j'étais pas bien. Mais en même temps, je le savais, hein, quand je l'ai écrit, je savais ce que ça allait faire, et en même temps, c'est presque pour ça que j'étais chercher ça. J'étais là, c'est la dernière douleur, là. Après, on arrête, tu vois. C'est vraiment comme ça, je pense, que je l'ai fait. Inconsciemment, c'était ça qui se passait. Allez, encore un effort sur l'air.
Tu savais déjà
que
t'allais arrêter après
Ouais, en fait, tu vois, je suis tellement dans plein de trucs en même temps que des fois, je m'oublie. Mais le mois du passé, il verrouille des trucs. Et on avait envoyé un post il y a un an, en juillet 2021, pour dire... Et quand je dis on, c'est les multiples mois. Pour dire, en juillet 2021, j'arrête bientôt. Tu vois. Et j'avais oublié que j'avais noté ça. Ça veut dire que mon cerveau disait, sur l'état mal, là, faut que tu commences à l'écrire. Parce que tu oublies en permanence, vu que t'as des bravos et des merci, des je t'aime. Après, tu fais bon, bah, c'est que c'est bien alors. Et tu t'oublies, toi, dans l'équation. Donc, moi, là, il faut plus que je m'oublie dans l'équation, quoi. Donc, ouais, non. C'est comme ça. Écoute, j'ai l'impression de faire du blues, c'est ce que je dis. Les bluesmen le savent que ça va être douloureux de faire du blues. Il y a plein de bluesmen qui ont essayé de foutre leur vie en l'air, quoi. Parce que le blues, la musique en soi, les notes, tout descend. Et il y a un vrai truc. C'est la musique en soi qui t'emmène là dans cette tristesse. Ouais, ouais. Oh là là, tu vois. Si tu chantes ça tous les jours, des chants de coton, des musiques comme ça, tous les jours, c'est sûr que tu vas pas être bien. Donc tous les jours à parler de trucs comme ça, c'est sûr que... Donc, il y a des trucs qui me font, que j'ai trouvé, des punchs qui me font extrêmement rire et tout. Mais la vérité, c'est que c'est une putain d'excuse, les blagues, que j'ai juste envie de dire un truc simple à la base, et que oui, des fois, c'est bien d'en rire, mais des fois, juste, ça casse la tête, quoi, que ça soit toujours pas réglé, que... Et puis, t'es toujours hypersensible à ce genre de commentaires qui te disent, oh, ça va, on n'aurait pas encore fini avec cette histoire, t'es là, franchement, non, hein, tu vois. C'est ça, ne serait-ce que ce petit commentaire-là, le jour où t'es un peu fatigué, t'es là, oh là là, je ne peux pas passer outre. Tout ça est fatigant. Mais hyper fier d'avoir fait tout ce que j'ai fait.
Et comment tu sais qu'un truc est assez digéré pour en parler ?
Ah, parce que je le fais. Sinon, je le ferais pas du tout. C'est ça, tout simplement. Il y a des choses où je sens que je suis pas. Il y a que la pédocriminalité où j'étais là, ouais, mais en fait, tu seras jamais prêt si tu fais ça, en fait. Donc vas-y, là. Vas-y, parle-en. Parce qu'en plus, mon ongle est un peu bizarre. Pas beaucoup entendu. T'as peur de te prendre une rousse dans la gueule de l'opinion publique. Et du coup, tu fais un peu comme ça, tu sais pas. Parce que mon ongle étant de dire que je pense qu'il faut vraiment écouter les pédocriminels. Et... Pff, tu vois. Donc, je me dis, allez, vas-y. Oh, puis, vas-y. Parce que sinon, je vais pas le faire, quoi. Mais sinon, s'il y a un truc me paraît trop douloureux, je le fais pas. Ou si je me sens trop en ignorant sur le sujet, je vais pas le faire, quoi. Et ça, c'est pas du tout douloureux de pas le faire.
Quand tu parles notamment d'hôpital psychiatrique et tout, à un moment, tu parles d'une scène où la meuf de l'accueil te reconnaît.
Ouais, l'infirmière, en fait, ouais. Qui m'emmène dans ma chambre. Elle me le dit en me ramenant dans ma chambre, ouais.
Est-ce que c'est un peu un truc aussi que t'as envie de quitter, la notoriété, le fait de pas pouvoir exister sans te demander tout le temps si les gens, ils te jugent, ils te connaissent, ils te machin?
C'est vrai que c'était pas forcément évident pour moi, mais j'ai compris que même si j'arrêtais, les gens allaient quand même reconnaître, tu vois. Parce que là, il y a plein de gens qui me font alors prochain spectacle, parce que personne n'a vu mon poste, évidemment. Mmh. C'est vraiment plus pour moi que je l'ai fait. Et encore une fois, je suis pas Madonna, donc tu dis t'arrêtes, les gens sont là, t'as commencé. Enfin, soyons relatifs, quoi, tu vois. J'avais que 16 ans, c'est rien, en fait, dans une carrière de stand-up, c'est absolument rien. C'est le début même, en fait. Mais moi, c'est ma fin. C'est ça, c'est des si quoi. Donc, la question était quoi déjà ? Parce
que la notoriété.
La notoriété, en fait, c'est marrant. Depuis que je sais que voilà, c'est bientôt la fin, et je la reçois vraiment totalement différemment, je me sens moins responsable de l'image que je renvoie. Je savais pas d'où ça venait, mais d'un coup, là, je suis plus en train de me relaxer quand on me reconnaît. Souvent, ça m'agressait, souvent, parce que en fait, j'étais là. Ouais, mais je crois que c'est ça, en fait, qui m'agressait. Tu vois, je suis en train de me rendre compte en live, c'est que souvent, on me regardait avec un grand sourire et tout. Et moi, je trouve que c'est pas rigolo ce que je raconte, tu vois. Et en fait, je comprends. Enfin, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas l'impression d'être Jamel Debbouze à l'époque où ouais, on tape dans le dos, ça va, ma pote et tout. T'es là, mais en fait, qu'est-ce que t'as pas compris dans ce que je raconte?
Mais c'est parce que toi, t'as l'image du dernier spectacle et des dernières choses que t'as fait qui sont plus intenses. Les gens, ils se rappellent de l'iPhone
sûr,
et tout ça.
Mais bien sûr. Non, mais. Pour moi, même l'iPhone, c'est sérieux. Enfin,
oui, mais...
Du coup, je comprends pas qu'on rigole trop avec moi, tu vois, parce que je suis là, ouais, je suis pas une grande rigolote, je sais pas à quel moment t'as vu ça. Mais c'est moi, en fait, c'est moi qui renvoie cette image-là, évidemment.
Ouais, mais toi aussi, tu sais pourquoi tu fais les choses, mais les gens, ils voient juste les blagues, quoi. Ils voient que le résultat et pas le processus.
Exact, et du coup, ça me rend triste, ouais. Parce que j'ai l'impression d'avoir mal fait mon travail, tu vois. Parce que je dis pas qu'on me trouve sympathique et tout, c'est normal, hein. C'est juste qu'il y a des fois, je vois bien que c'est juste ma tête, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai raconté, du coup, je suis là, mais qui a entendu ce que j'ai dit, en fait? Ça, c'est ça qui me stressait, moi. Et là, je suis beaucoup plus relaxée avec ça parce que, comme ça y est, c'est fini, je me dis, si les gens me reconnaissent parce qu'ils connaissent ma tête, bon, ils connaissent ma tête, puis voilà.
Et écrire premier degré ?
Écrire premier degré ?
Ouais.
Ouais, carrément. J'écris toujours premier degré, en fait. Le stand-up, j'écris toujours premier degré. Et malheureusement, c'est là, dernièrement, que je commence à écouter plus mon écriture automatique dans ma façon de faire du stand-up sur scène. Mais souvent j'écris en ingé et tout ce qui vient et tout, c'est de là que viennent les choses, donc c'est après que je vais chercher les blagues.
D'accord, ok.
Tu vois. J'ai essayé de me retenir dans drôle quand on a écrit ensemble, mais parce que sinon c'est vraiment pas marrant ce que j'écris, moi, tu vois.
Ah ouais, je me rappelle des trucs sur les violences policières et tout ça, ouais, tu mettais des stats et des trucs, ouais. Vraiment tout. Ouais.
Et en fait, il n'y a rien de drôle, c'est juste que ça devient. Et la vérité devient absurde, des fois.
Ouais.
C'est ça que je cherche. Et puis. C'est ça que je vais aller chercher encore, carrément, dans l'écriture. Parce que là, effectivement, je vais éviter de faire travailler ce mécanisme de cerveau qui consiste à chercher la blague, chercher la blague. Mais je veux chercher la pertinence, moi. Si c'est marrant, tant mieux. Ça veut dire que c'est vraiment absurde. Mais je chercherai pas à ce que ça soit drôle, tu vois.
Et avant, tu te laissais pas assez de place pour ça ?
Pas du tout. Pas du tout. Chercher l'efficacité. En fait, je jonglais entre ma carrière, la première carrière qu'on m'a proposée de télé où il faut être efficace de ouf, et le moi, le vrai moi. J'ai passé vraiment 16 ans à faire ça, en fait. Qui je suis ? Oulala, tu vois. Donc, dans mon écriture, je me laisse, je m'autorisais. C'est pour ça que je fais le campus. C'est pour ça que j'ai monté une formation. C'est d'abord pour moi. Parce que quand j'ai expliqué ça aux élèves, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas payé grand-chose. Sinon, ils auraient payé beaucoup plus cher, mais c'est que clairement, il fallait aussi que j'apprenne des choses. J'avais besoin de voir un journaliste avec qui on allait écrire, avoir un anthropologue, reparler de la base de l'écriture et de cette écriture automatique, d'aller chercher au fond de soi, de puiser des trucs. C'était 4 mois de formation comme ça où, au bout de 2 mois, tout le monde pleurait un peu, quoi. Parce qu'on s'allait chercher des trucs, ça nous torturait la tête, quoi.
Tu penses pas que c'est possible d'écrire des blagues sans...
Si. Bien sûr, c'est pas ma vie. J'aurais bien aimé avoir cette vie d'homme blanc hétéro, mais c'est pas la mienne. En fait, c'est mon cerveau qui est fait comme ça. C'est ce que mon cerveau perçoit du monde. Mais dans la vie, tous les jours, je fais des blagues que, tu vois, je m'autorise moins à faire sur scène. Parce que je me dis qu'il y a une urgence et que je peux pas faire... Il y a d'autres gens pour ça.
Ouais.
Alors moi, je suis vraiment dans ce truc de poste, un peu de pion, de... Ok, où est-ce que je serais utile, dites-moi. Il y a pas la prête, parce que sinon j'aurais déjà fait du cinéma. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire de ouf, mais chacun sa place, quoi. Chaque chose en son temps.
Ouais, mais est-ce que c'est se faire du cinéma et tout serait pas t'écouter, justement, faire quelque chose dont t'as envie plutôt que d'essayer absolument de servir les autres, de leur apprendre des choses?
Jusque là c'était ma dynamique. On va voir après le repos, peut-être que c'est ça qui viendra.
Ouais.
Peut-être qu'effectivement j'écouterai ça plus simplement. À chaque fois je me dis non, faut pas commencer à m'amuser à faire des films, tu vois.
Bah donc après c'est risqué de retomber dans la même mécanique qu'il y avait pour le stand-up, quoi.
Ouais. Je parle en tant qu'actrice, hein, tu vois, même pas, parce que réel ça me parle, ça me fait peur, ça m'excite, mais ça me parle de ouf. Mais en tant qu'actrice j'aurais l'impression juste de m'amuser, et je pense qu'il y a d'autres endroits où s'amuser. Je sais pas comment expliquer ça. Bon, je trouve que le cinéma est pas, c'est rare que ça soit vraiment cool aussi ce qui se raconte dans les films, quoi. Donc c'est vraiment cool. Moi j'adore l'ambiance du tournage, j'adore partager avec des partenaires des moments de jeu et tout ça, mais les seuls castings que j'acceptais en général, c'était des films sociaux et tout. Et à chaque fois, je faisais des calls. Il y en a un comme ça, je m'en rappelle, j'ai accepté il n'y a pas longtemps, je fais un casting, j'ai eu le callback, et vraiment, j'étais prod en même temps. Le spectacle, le comedy club à gérer, et j'avais un rendez-vous chez le banquier en même temps. Donc vraiment, je suis arrivé en retard à ce casting. Je t'explique pourquoi je raconte ça. Et du coup, j'arrive un peu défoncé aussi, un peu fumé, un quart d'heure de retard, et il y a Pio Marmaï qui est là pour jouer la scène avec moi. Et vraiment, j'ai jamais aussi mal joué de ma vie devant un gars qui joue super bien. Il jouait tellement bien qu'à un moment donné, j'étais là, tu joues là où tu me parles vraiment? Il m'a dit, j'étais la scène en fait. Et j'étais là, waouh, ouais, faut vraiment que j'arrête les castings tout de suite, parce que je faisais trop de trucs en même temps. Mais à côté de ça, j'adore jouer. Simplement, j'ai pas eu l'occasion parce que tu vois, ma vie n'était pas compatible avec celle-ci, quoi. Peut-être que ça viendra.
Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de jouer quelqu'un d'autre?
Tout. C'est quelqu'un d'autre. C'est trop bien d'aller chercher la psychologie de quelqu'un d'autre, de justement mettre les lunettes sociales. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à ce que je fais en stand-up. J'essaie de comprendre l'autre. J'essaie pas d'expliquer qui je suis aux autres. J'essaie aussi de les comprendre pour pouvoir leur parler. Donc, c'est ça qui est excitant. C'est de se mettre à la place de l'autre au maximum de ses capacités, en prenant les lunettes sociales de quelqu'un d'autre, en essayant de voir comment j'aurais grandi, si j'étais né là, si j'avais eu tel prénom, si j'avais eu tel parent avec telle vie, tel passé. C'est trop excitant. Ça permet de changer sa propre vie de tous les jours, ça aussi. C'est un vrai travail pour soi tous les jours. Donc, j'aime ça. Puis, j'aime aussi l'idée de, au-delà de jouer un autre personnage, j'aime l'idée de jouer avec d'autres partenaires. D'être, contrairement au stand-up,
ouais, c'est très solitaire en
c'est
fait.
C'est trop chouette là, tu vois. C'est trop chouette de pouvoir envoyer la réplique à quelqu'un, d'avoir la complicité de l'autre dans le regard. Moi j'adore ça, je trouve ça trop cool.
Pourquoi t'es allée vers le théâtre à la base?
Ouais, parce que j'aime bien ça, hein, aussi. Sauf que le théâtre, après je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de gens différents et tout, et que moi le drame, j'étais nul de ouf. J'adore en regarder en fait, mais c'est tout, quoi. Je croyais que je savais que j'étais bonne à ça, mais en fait je suis bonne pour regarder.
Comment t'as réalisé que t'étais nulle pour ça?
Parce que j'en ai fait, et du coup je suis en fait, en tout cas à l'époque, mon cerveau n'était pas dans la capacité de se concentrer uniquement sur le texte parce que le texte était si lourd qu'il y avait à la fois le perso que je jouais et Shirley qui était en train d'analyser ce que le public pouvait ressentir. Donc comme un stand-upper qui veut un peu savoir si le public va bien, tu vois. Donc des fois je me sortais du personnage pour les regarder un peu. Genre un petit coin de l'œil était là, qui tuait toute la scène évidemment. Une fraction de seconde. Et j'avais senti tout de suite que j'étais pas à ma place. Alors tourner c'est cool, mais faire du théâtre, le live me donne envie forcément de parler directement aux gens. Ou de leur chanter un truc, mais en les regardant dans les yeux. Je peux pas parler à quelqu'un d'autre alors qu'il y a des gens qui seront là. Je suis là, mais regarde là, c'est bizarre. C'est trop chelou, tu vois. Il faut leur dire un truc. C'est hyper étrange, quoi.
C'est quoi le truc le plus important que t'aies appris dans ta carrière?
Waouh. Ça, c'est une question, hein. Bravo. Le plus important que j'ai appris. Être entouré, c'est important. Être bien entouré. Être entouré de gens de confiance. Savoir donner sa confiance. La confiance. J'ai appris à développer ma confiance et à comprendre qu'elle était hyper importante pour avancer. En fait, moi, je comptais que sur le public. Tu vois. Et le public, c'est cool, hein, on a une super relation. Mais j'avais oublié de...
C'est une masse, quoi.
Ouais. Et tu vois, en termes d'individus, j'avais beaucoup plus de mal à créer des liens un par un. J'arrive plus avec la masque, avec...
Comment ça se fait, ça?
Oh, certainement mon enfance, hein. Il y avait plein de choses dont je parle dans le spectacle et d'autres pas, d'ailleurs, mais... qui font que, ouais, je me suis toujours senti un peu solo, quoi. Un peu... Mais mon père, il m'a fait grandir avec des phrases comme « T'es né seul, tu vas mourir seul », donc...
Allez, bon anniversaire!
Ouais, c'est ça. Tu vois, depuis que j'ai 8 ans, 8, 9 ans, j'entends ça. Donc, du coup, j'ai toujours. Et puis, il m'a fait beaucoup peur sur le monde qui nous entoure, sans avoir totalement tort d'ailleurs, mais c'était peut-être un peu trop tôt, un peu pas assez délicat, pas assez. Il m'a donné beaucoup de confiance en moi pour dépasser des choses, savoir que j'étais capable de faire des choses. En même temps, il m'a aussi instauré beaucoup de peur sur le monde extérieur. Sur le fait qu'en tant que noir, il faudrait en faire plus que les autres, qu'en tant que femme, ça allait être difficile, qu'en tant que lesbienne, il allait pas m'accepter. Ça fait beaucoup de choses à. Tu vois. Donc. Et puis mes premières aventures dont je te parlais là tout à l'heure, au début de ma carrière, m'ont vraiment blessé dans ma confiance que je pouvais avoir dans les autres qui étaient déjà pas ouf. Donc là, c'était un peu mort, quoi. Donc maintenant, avec le temps, j'arrive plus à. Aller bien, me faire kiffer, notamment, tu vois, là, le fait d'arrêter, c'est un choix joyeux qui montre que je vais bien, en fait. C'est un bon signe que de marcher sur mon entorse en faisant, ah, ça fait toujours des blagues, allez, encore un nouveau spectacle, allez. Tu vois, non, on va pas faire ça, on va pas appuyer sur l'entorse, on va guérir, on va faire de la rééducation, tranquillement. Mais, c'est ça, c'est, j'ai répondu à la question, je crois. Hein.
Ouais.
Parfait. Je sais plus.
Dans le spectacle, tu parles de drogue et du fait que t'en prenais pour ressentir des choses. Est-ce que là, maintenant que tu...
Est-ce que j'en ai encore besoin?
Non, mais tu vois, ça peut être très effrayant de déménager au fin fond du monde. Ah. Parce que là, en termes de ressentir des choses, c'est plus lent, quoi.
Ah, mais moi, je ressens plus fort les choses, c'est marrant. En fait, à Paris, j'ai trop d'informations. Genre, il y a trop d'infos à la seconde, et du coup, ça bouge toutes mes idées. Alors que, en fait, j'ai déjà, dans ma tête, c'est déjà Paris, moi. Tu vois, en termes de trafic, ça fait tra tra tra. Donc, le fait d'être dans le calme, ça me permet d'entendre mieux mes idées. Et du coup, moi, la moindre information, c'est plein d'idées. Tu vois, c'est une espèce de pensée en arborescence, comme ça, où une idée me donne 1000 idées. Une conversation dans mon village me fait de la journée. Un gars qui va pas bien dans mon village. C'est déjà, on parle de drogue et d'hôpital psychiatrique. Là, il y en avait un comme ça qui était pas bien. J'en ai parlé au village. Il faut peut-être faire attention à lui et tout. C'est quand j'y vais, bah, c'est important de savoir comment il va, etc. C'est long, hein, tu vois. Donc, toute information pour moi.
J'imagine le village d'Astérix et Obélix où t'allais voir le druide.
Mais c'est un peu ça. C'est vraiment un peu ça, quoi. Tu vas voir le gars au bar, quoi. Salut, le druide. Qui donne les poissons et tu lui dis, les boissons, pardon. Et tu lui dis, ne donne plus jamais de boissons à ce monsieur. Il est tombé dedans quand il était petit, quoi. Ouais, c'est ça. j'ai vraiment plein d'infos, tu sais, moi, je vraiment, c'est pas des blagues, quoi. Le merle, ça me fait, c'est beaucoup d'infos pour moi. Mmh. C'est une vraie conversation que j'ai eu ce matin et tout. La dernière fois, quand je suis partie déjà, il s'est rapproché de moi, c'était une vraie fierté. J'en ai parlé pendant vraiment 5 heures, tu vois, aux gens qui étaient là, waouh, boring. Et donc, les sensations, je vais les ressentir plus fort et mieux qu'en masse comme ça, justement, à Paris, où d'un coup, c'est...
Ouais, ou en fait, là, la drogue, c'était plus une fuite, justement, des stimuli.
Exact.
Quoi. D'accord,
okay. Alors que là, j'en ai pas besoin à la campagne. Alors qu'à Paris, si je devais encore faire ma vie à Paris, il y a des chances, oui, que je reprenne des drogues, pour me donner un peu de baume au cœur. Bah, en fait, plus tu t'alignes, plus tu écoutes qui tu es vraiment, et me dire, peut-être que ce que je suis vraiment, c'est pas humoriste, ça fait partie de mon chemin, là. Déconstruire comme ça, déposer des choses, parce qu'il y a un truc un peu aussi simple de se dire j'ai trouvé ma voix, ça y est, c'est bon. Ça me fait peur, moi, de m'enliser dans quelque chose aussi. On va pas se mentir, ça me fait peur. De devenir cette vieille bourgeoise humoriste qui met la gueule sur la vie alors que ça va tout très bien.
Moi, Hidalgo, j'ai pas raison.
Tu vois, il y a un truc un peu. J'ai pas peur d'avoir peur. Ça, c'est clair.
J'ai envie qu'on termine là-dessus. Hein.
Cool.
Merci beaucoup.
Merci Fanny.
J'espère que cet épisode vous a plu. Dans la description, je mets plein de liens pour retrouver les dernières dates de Shirley Soignon, la suivre sur les réseaux, regarder son documentaire sur le stand-up ou son 30 minutes sur Netflix. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast si ça vous a plu, évidemment, et à écouter les précédents épisodes. Il y en a plein, il y en a plus de 60, avec Paul Mirabel, Laura Felpin, Kian Kojandi, Thomas Wiesel, Tania Dutel et plein d'autres humoristes, notamment. Et puis, vous pouvez me suivre, moi aussi, sur Instagram pour être tenu au courant de la suite. Bisous. Et cet épisode a été mixé par le fabuleux Maxime Moitieu, qui est également à l'origine de ce fabuleux générique.
Searching for the perfect gift idea for that hard-to-buy person on your list? The Allbirds Wool Runner is a natural fit. The Wool Runner is super cozy, super comfy, and super giftable. It's made with ZQ-certified merino wool, a naturally cozy material that offers next-level comfort and a lower environmental impact. The cushioned midsole and versatile design offer all-day comfort in a classic style you can wear every day, even in a winter wonderland. And its fully machine-washable construction makes it easy to keep your shoes looking like new. Allbirds shows off the Wool Runner's carbon footprint right on the shoe so you can see the difference for yourself. On top of that, they actually offset that carbon footprint to zero, making the Wool Runner completely carbon neutral, so you can stay cozy and tread lighter on the planet. This holiday season, give tidings for comfort and coziness with the Allbirds Wool Runner. Discover your perfect pair at allbirds.com. That's Allbirds.com.